Nzamba.
Nzambira Samirana.
Le journal avec Josine Kazé.
Vous suivez la radio Inzamba Agateka Kawe. Merci de nous écouter. C'est le moment du journal en français, dont voici d'abord la charpente. L'obtention des documents de séjour est un véritable casse-tête pour les Burundais qui vont mener leur vie au Sud-Soudan. Ils sont dans une situation de galère. On fera le point dans ce journal. La criminalité monte d'un cran au niveau des époux ici et là dans le pays. L'impunité des crimes est l'une des principales causes du phénomène, nous dira un psychologue. Et en fin de ce journal, nous parlerons de la mesure de réouverture des bureaux de change au Burundi. Voilà pour le sommaire.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Bonsoir à tous. La situation difficile de certains Burundais vivant au Sud-Soudan se détériore dans ce pays où ils sont allés à la quête de meilleures conditions de vie. Ils sont traités comme des irréguliers pour cause des arriérés d'impayés, de visas, et ce depuis une année. La police de renseignement sud-soudanais les traque et ils sont obligés de verser $270 américains pour sortir de prison et récupérer leur passeport sans visa de séjour. La question dépasse les responsables de la diaspora burundaise dans ce pays. C'est au moment où le Burundi n'a pas de bureau d'ambassade au Sud-Soudan. On fait le point avec Pierre Garongo.
C'est une vie dure que mènent les Burundais de la diaspora sud-soudanaise. Ces Burundais venus pour la plupart des provinces de Lomongue et Cibitoke étaient allés pour gagner de l'argent, mais ils ont vite déchanté. Selon certains de ces Burundais, le peu de salaire qu'ils gagnent se termine dans les poches de la police des renseignements qui les traque comme des irréguliers. Ils sont sommés de verser une somme de $270 chacun, selon les sources de ces Burundais.
Actuellement, ils sont en train d'appréhender des gens, les traquer dans les rues pour les mettre en prison. Il y a un qui a été arrêté lundi, qui s'appelle Nirenganya Jean Bosco, mais Dieu merci, il a été relâché mardi. Et à cause de la peur, il a vite pris la décision de rentrer au pays sans y avoir médité. Parce qu'au cachot, on l'a beaucoup menacé et a accepté de verser un peu d'argent et a promis de payer le reste encore plus tard. Mais il est en route pour le Burundi. On ne sait pas s'il va arriver indemne. Alors les autres qui sont dans les mêmes conditions sont en train de verser $210 sans compter les amendes. Ce qui nous fait encore mal, c'est que même si vous payez ces $210, on vous donne votre passeport mais sans visa. Il y a aussi un qui est originaire de Cibitoke. Il vit en clandestinité depuis une semaine parce que son laissez-passer a expiré. Il n'a rien, pas de travail, pas de famille, il a peur d'être arrêté et se faire torturer, comme on le fait aussi pour d'autres. C'est vraiment très triste ce qui nous arrive ici au Sud-Soudan.
Ces Burundais n'ont aucune voie de recours dans ce pays qui n'a pas de représentation diplomatique burundaise. Seule la diaspora burundaise au Soudan du Sud peut apporter son soutien, mais ses marges de manœuvre sont très limitées, selon Aladin Ibidi, leur représentant.
J'ai répondu à leur convocation. Ils m'ont demandé où sont localisés les Burundais, ce qu'ils font comme travail. J'ai répondu à leurs questions et ils ont par la suite amené la question des passeports. Ici, ils avaient la mission de les renvoyer au Burundi et ils m'ont suggéré de communiquer à l'ambassade, mais nous n'avons pas de bureau ici. Nous dépendons directement de l'ambassade d'Éthiopie, mais ce n'est pas officiel. Alors, en peu de mots, c'est à notre niveau dans ce cadre de la diaspora que nous sommes sollicités. J'ai essayé de contacter le premier conseiller de l'ambassade en Éthiopie. Je lui ai exposé le problème et il m'a répondu que la question des irréguliers ne me concerne pas, que je devrais m'occuper uniquement de ceux qui sont en ordre. Mais puisqu'on m'avait annoncé qu'il projetait de renvoyer ses passeports au Burundi, je me suis dit que ces gens risquent gros pour n'avoir pas été informés, surtout que beaucoup d'entre eux ne peuvent pas réaliser les conséquences que cela peut leur apporter. Il a fallu que j'aille négocier avec eux.
La situation difficile de ces Burundais a été soumise à l'ambassade du Burundi en Éthiopie, qui couvre aussi le Sud-Soudan. Nous avons cherché à cet effet la réaction de l'ambassadeur Willy Nyamitwe, mais il n'a pas répondu à notre message.
Et puis, c'est en flou autour de la mort d'un conducteur de taxi-moto mardi dernier en commune Kayogoro de la province Makamba. La police et l'administration affirment qu'il a été victime d'un accident. Mais des témoignages recueillis auprès des habitants de Kayogoro et de certains conducteurs des taxi-moto font savoir qu'il a été tué par un policier. Et le fait que ce policier soupçonné soit toujours en liberté et l'absence d'une enquête sur la mort de ce conducteur de taximoto inquiète certains de ses collègues et disent avoir peur de subir le même sort. Les précisions avec Georges Nimeya.
Colère et inquiétude des conducteurs de mototaxi de la zone Ligina après la mort de l'un d'eux mardi dernier agatué dans cette zone. Ils affirment être révoltés par le fait que justice n'a pas encore été faite pour leurs collègues. Ils réclament la délocalisation du policier qu'ils accusent de l'avoir tué. Ils révèlent qu'il n'en était pas à son premier crime, ce qui fait craindre le pire.
Nous demandons au président de la République de se renseigner sur ce criminel affecté à la brigade Katwe pour qu'il soit délocalisé. Ce policier avait déjà tiré sur un autre citoyen à Kibirizi.
De son côté, le chef de la zone Ebigina, Sauvé, rassura, celui qui n'a rien à se reprocher ne devrait pas s'inquiéter.
Il transportait de l'engrais frauduleux pour aller le vendre dans un autre pays, alors que la population en manque. Comment pourront-ils être tués s'ils travaillent dans la légalité? Nous ne sommes pas en guerre. Les motocyclistes travaillent dans la sérénité. Je conseille à ceux qui transportent des marchandises frauduleuses de ne plus le faire.
Pour lui, l'homme qui est décédé n'a pas été tué par balle.
Je sais qu'il n'a pas été tué par balle. Même un médecin de Makamba a confirmé qu'il n'a pas été tué par balle. Il a percuté un arbre en fuyant quand il a vu des policiers parce qu'il déplaçait de l'engrais frauduleux.
Malgré ces propos, les conducteurs de mototaxi dans cette zone refusent toujours de reconnaître qu'il s'agit d'une mort accidentelle tant qu'il n'y a pas d'enquête pour déterminer les circonstances de la mort de Justin Sarouchimike.
Tous les habitants de Wigina confirment qu'il y a eu des coups de feu et qu'un honnête citoyen a été tué. Sa moto se trouve à la brigade Gatkwe. Que ces bourreaux soient arrêtés.
La radio Inzamba n'a pas pu avoir la version des responsables de la brigade Gatwe sur ce dossier.
La radio Inzamba a finalement pu joindre par téléphone le responsable de la brigade Gatwe, mais il n'a pas souhaité s'exprimer sur ce dossier. Parlons maintenant de cette recrudescence de la criminalité au sein des couples ici et là à travers le pays. Trois femmes ont été tuées par leur mari au cours de cette semaine, deux dans la province de Muyinga et une autre dans la province de Makamba. Le psychologue Ernest Munziza pense que c'est la misère et la pauvreté et l'impunité des crimes qui sont à l'origine de ce phénomène. Il déplore que les dirigeants ne donnent pas de bons exemples pour bannir l'esprit des rancœurs et d'intolérance au sein des familles. On l'écoute.
Cette criminalité est couverte d'impunité. La loi pénale en vigueur, les juges, toutes les institutions judiciaires se mettent en congé mortel. Certains membres de ces institutions sont d'ailleurs utilisés comme des instruments politiques du crime. Le pays devient comme une forêt où règne la loi de la jungle, où le plus fort dévore le plus faible. La misère et la pauvreté qui sévissent dans le pays viennent ajouter le mal au mal, le pire au pire. Dans les ménages, les couples sous l'influence du fait social et politique, sous le désespoir et l'incertitude du lendemain, sous la politique antisociale caractérisée par le non-respect des normes, le non-respect des règles sociales régulatrices de la société, ces couples-là développent la nature humaine meurtrière et passent à l'acte de la violence et de l'agression. Chacun accuse l'autre d'être la source du malheur qui leur tombe dessus. Parfois, cette incompréhension, ce désaccord, ce conflit entre le couple va pousser l'un ou l'autre à perdre la confiance et à passer à l'infidélité conjugale, ce qui renforce le comportement criminel de l'un ou de l'autre. Un pays qui n'a pas de dirigeant responsable est un pays voué à la destruction, à commencer par la destruction du foyer familial qui est la base de la société.
Inzamba.
Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, on revient sur la mesure de réouverture des bureaux de change au Burundi. Émile Nivasomba vous présente ce magazine de la synergie des médias.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idruya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
La mesure leur permettant de reprendre officiellement leur travail a été prise il y a 2 semaines. Leur métier était interdit au Burundi depuis plus de 2 ans, mais les cambistes ne sont pas encore sur terrain. Certains d'entre eux signalent que la caution exigée par le gouvernement est énorme. Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 22 octobre 2022, nous allons également recueillir la réaction de l'organisation de lutte contre la corruption et les malversations économiques. Vous êtes avec Émile Nivasomba. Bienvenue. Le 7 octobre dernier, le gouverneur de la Banque de la République du Burundi, Dieudonné Murengera Ntwari, a annoncé la décision de réouverture des bureaux de change. Ici, il dit que la mesure prise le 7 février 2020 portant retrait d'agrément des bureaux de change est levée et que les anciens opérateurs dans le secteur et toute personne voulant y opérer sont invités à se faire enregistrer auprès de la Banque centrale. Il dit aussi que l'agrément sera conditionné par la signature d'un acte d'engagement sur le respect du cadre réglementaire des bureaux de change. Certains cambistes nous ont confié que la Banque centrale exige 110 millions de francs burundais de caution pour l'agrément. 2 semaines après l'enregistrement, les agents de la BRB devront effectuer une visite de vérification sur le bureau de change. Chaque propriétaire d'un bureau de change doit aussi faire enregistrer ses collaborateurs, qui devraient être au nombre de 2 au maximum. Nous n'avons pas pu joindre le gouverneur de la Banque centrale pour confirmer ces informations. Au micro de nos confrères de la radio Inzamba, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Gabriel Rufiri, a indiqué que l'essentiel était que la loi soit appliquée de la même façon pour les cambistes.
Nous pensons que le gouvernement doit tout faire pour que les bureaux de change fonctionnent en toute légalité et des conditions qui favorisent la diversité et les compétences, parce que nous attendons ici et là que les bureaux de change pourraient être donnés à une catégorie de personnes, mais nous demandons à ce que toutes les personnes qui veulent entrer dans ce métier puissent y aller si réellement les conditions sont remplies. Mais nous demandons aussi que les conditions ne soient pas des conditions très contraignantes, mais quand même des conditions qui n'autorisent pas le désordre, parce qu'il faut toujours qu'il y ait de l'ordre dans tout.
Selon Gabriel Rufiri, le gouvernement burundais doit prendre d'autres mesures d'accompagnement.
Il faut multiplier les cultures industrielles, comme le café, le coton, le thé. Pourquoi pas même faire tout pour que les minerais que nous disposons puissent générer des devises. En deuxième lieu, il faut que la diaspora, mais aussi des investisseurs étrangers puissent venir au Burundi pour investir. Pourquoi pas aussi développer aussi la coopération au développement, parce que là aussi c'est l'une des sources de financement, mais aussi le tourisme. Certes, le gouvernement a commencé certaines initiatives, mais nous pensons qu'il faut que des mesures soient prises, parce que chaque niveau de recherche des devises a des conditions. Pour les investisseurs étrangers et la diaspora, il faut respecter les 9 indicateurs de doing business. C'est clair, on avait commencé en 2010. Malheureusement, ces indicateurs de doing business ont été abandonnés presque. Seul le guichet unique fonctionne et la création de l'entreprise. Mais d'autres critères comme la lutte contre la corruption, la justice pour tous, tous ces indicateurs ont été purement et simplement abandonnés. Mais pourquoi pas aussi le rapatriement des devises? Parce que nous avons entendu que dans le passé, les devises n'étaient pas rapatriées, c'est même les membres du gouvernement qui le disaient. Donc nous pensons qu'il faut que les devises soient rapatriées.
En plus de l'autorisation de réouverture des bureaux de change avec les conditions évoquées, la BRB a décidé que les fonds reçus des transferts instantanés internationaux ne seront plus soumis au règlement en monnaie locale. Les bénéficiaires de ces fonds ont la latitude de les percevoir en devises ou de les transférer sur leur compte en devises. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 22 octobre 2022. Merci de nous avoir suivis. C'était Émile Nuassoumba à la présentation. À samedi prochain, si Dieu le veut.
C'était l'émission au cœur de la société.
Et pour clore ce journal, comme tous les samedis, je vous propose la revue de presse avec Karine Doussavé.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Auditrices et auditeurs de la radio Inzamba, vous êtes les bienvenus. La revue de presse hebdomadaire de ce samedi s'ouvre sur le journal en ligne SOS Média. Ce journal parle de 200 Burundais demandeurs d'asile au Kenya. En une période d'un mois seulement, ils sont actuellement dans deux centres de transit en attendant la décision des instances habilitées pour qu'ils soient acceptés comme réfugiés. Ces Burundais, selon le journal, ils y sont arrivés en trois temps. Le premier groupe, composé de 60 personnes, est arrivé en mi-septembre de cette année. Le deuxième et le troisième, ils sont depuis le début de ce mois d'octobre. Selon le HCR, ils sont composés essentiellement des femmes et d'enfants. Les raisons de la fuite, comme l'indique SOS Média, c'est l'insécurité ou les mauvaises conditions de vie dans des camps de réfugiés des pays voisins du Kenya. Même s'ils ont franchi les frontières à la recherche d'asile, ils sont dans des mauvaises conditions, car les deux centres d'accueil sont débordés. Les leaders communautaires plaident pour l'accélération du processus d'octroi du statut de réfugié. Mais en attendant un autre centre d'accueil pour éviter de louches situations qui peuvent arriver à ces demandeurs d'asile est plus que nécessaire. Les 200 rejoignent plus de 20 000 autres Burundais qui sont déjà au camp de Kakuma. Burundi Echo pour continuer. Immatriculer les bateaux pour améliorer la sécurité lacustre, titre le journal. Un délai de 3 mois est accordé aux propriétaires de bateaux pour immatriculer leurs engins. À partir du 1er janvier 2023, aucun bateau ne sera plus permis de circuler dans les eaux des lacs du pays. Selon l'autorité maritime, portuaire et ferroviaire, la mesure vise à renforcer la sécurité lacustre, surtout que les malfaiteurs utilisent souvent les bateaux des pêcheurs. Même si la mesure apporte du bien au point de vue sécuritaire, les pêcheurs grognent. Ils trouvent que le coût d'immatriculation est très exorbitant. Il est fixé à 105 dollars américains, soit environ 218 000 francs burundais. Ces pêcheurs demandent que ce coût soit revu à la baisse compte tenu du faible pouvoir d'achat des propriétaires de bateaux. En plus, ils trouvent que le délai de 3 mois ne suffit pas pour se préparer. Nous poursuivons cette revue avec le journal Iwachu. Ce journal parle de la pénurie du ciment de type Buseko après la hausse du prix du ciment en date du 17 de ce mois. Les nouveaux tarifs annoncés par Buseko passent de 24 500 francs burundais à 28 500 pour le ciment dit 32.5R, tandis que le ciment 42.5R est passé de 30 000 francs à 34 000 francs. L'entreprise justifie cette hausse en évoquant la conjoncture actuelle sur la chaîne d'approvisionnement des matières premières. Le ciment Buseko devient rare sur les marchés de Bujumbura, où tous les magasins vendeurs du produit sont pratiquement vides. Les clients pensent à une spéculation des vendeurs. C'est par cet élément que nous terminons cette revue hebdomadaire. Vous étiez avec Karine de Savé. Au revoir, à la prochaine.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Eh bien, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité à la radio Inzamba. Gatete Kakawe, un très bon week-end à tous. Au revoir.